Radio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'être fidèle au programme de Studio Tamani. Il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. La sécurité est de plus en plus préoccupante au nord et au centre du Mali. Pas plus tard que cette semaine, une dizaine de civils ont été tués à la frontière Mali-Niger et des cas d'enlèvement ont été enregistrés. Plusieurs localités subissent la loi des groupes djihadistes dans la région de Mopti. L'organisation terroriste Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslim vient de publier des photos des combattants qui auraient servi de kamikazes lors de l'attaque du 14 avril contre le supercamp de Tombouctou. Campagne de vaccination du cheptel dans la commune de Tessite, des éleveurs refusent de faire vacciner leurs animaux, jugeant cette période de chaleur inopportune pour une telle opération, des arguments réfutés par les services vétérinaires. Auditrices, auditeurs, bienvenue. L'insécurité est de plus en plus grandissante au nord et au centre du Mali, alors que la deuxième phase de l'opération Foronto de la force G5 Sahel vient d'être lancée. Les attaques et les violences contre les populations civiles se multiplient. Au moins 10 civils, dont des enfants, ont été tués cette semaine à Aklaz, dans la zone d'Andraboukane, à la frontière Mali-Niger, et plusieurs cas d'enlèvement ont été enregistrés. Dans le cercle de Djéné, c'est le village de Noumbozo qui est assiégé par les présumés djihadistes. Plus de détails avec Fatma Zatoula.
Dans la nuit du 26 au 27 avril, des hommes lourdement armés arrivés sur 16 motos ont fait irruption dans un campement à Aklaz, une localité située à l'est d'Andraboukane, à la frontière entre le Mali et le Niger. Selon plusieurs sources locales, les assaillants ont ouvert le feu sur les populations civiles en faisant une douzaine de morts. Parmi les victimes, des enfants et des personnes âgées. Le village de Noumbozo, situé dans l'arrondissement de Kouakourou dans le cercle de Djéné, serait également sous contrôle des présumés djihadistes depuis quelques jours à affirment plusieurs sources locales. Toujours dans la région de Mopti, à Youarou, un comptable du CSRF et le chef du CESCOM de Guido Saré ont été de nouveau enlevés hier jeudi. Ils ont été interceptés par des hommes armés entre Djaloubé et Séwéri sur la route de Mopti. Et pourtant, ces personnes avaient été libérées il y a une semaine suite à un premier enlèvement. Dans le centre du pays, le sous-préfet de Ombori a lui aussi été enlevé puis relâché cette semaine par des hommes armés non identifiés. Il est sain et sauf selon des sources locales. Toutefois, les assaillants sont partis avec son véhicule.
Dans la région de Mopti, plusieurs localités subissent la loi des groupes djihadistes. Après plusieurs tentatives ratées, des hommes armés non identifiés seraient parvenus à assiéger ce dimanche le village de Noumbozo dans le cercle de Djéné. Selon des sources locales, il y aurait 5 morts, plusieurs blessés et des otages. Cet habitant qui a requis l'anonymat revient sur les faits. Il a été joint au téléphone par Madeleine Damelé.
Le dimanche dernier, ils sont venus attaquer tous les villages et arrêter tout le monde. Quand les chasseurs sont sortis, ils les ont arrêtés aussi. Depuis le matin jusqu'au soir, ils n'ont fait que frapper les habitants. Après la bavure, on a retrouvé le corps des 5 chasseurs et les autres sont portés disparus. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Il n'y a plus d'activité. On ne peut même pas se promener librement dans les villages, au risque de se faire tirer dessus. Nos provisions sont finies. On a faim, mais on ne peut rien faire. Après cette attaque, le chef de village a appelé les forces de l'ordre. Ils se sont rendus sur le terrain et après quelques fouilles, ils sont repartis. Les assaillants étaient déjà partis. On espère que l'État va nous épauler concernant cette situation. Sinon, au moment où nous sommes, rien ne va.
Réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. L'organisation terroriste Lejnim Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslim a publié des photos des combattants qui auraient servi de kamikazes lors de l'attaque du 14 avril contre le supercamp de Tombouctou abritant les forces françaises et onusiennes. Dans une déclaration, le mouvement terroriste apporte un démenti quant à l'utilisation d'une femme kamikaze dans cette attaque, comme l'indiquait Gilbert, le commandant de la force Barkhane, dans une récente interview. Comment accélérer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants? Une rencontre nationale est focalisée depuis hier à Bamako sur cette question. Plusieurs acteurs du processus de paix réfléchissent sur les modalités de réintégration de certains militaires, déserteurs et des éléments des mouvements armés au sein de l'armée nationale. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées, toutes les mesures sont prises pour éviter de commettre les erreurs du passé. Djaran Kone, directeur de l'information et des relations publiques des armées au micro d'Oumar Ouagalou.
La thématique spécifique, c'est un peu les aspects défense et sécurité de la feuille de route pour la mise en œuvre du chronogramme des actions prioritaires. On discute bien évidemment les conditionnalités du retour des personnels qui sont aujourd'hui membres des groupes armés, mais qui souhaiteraient, qui désiraient retourner dans les forces armées et de sécurité FAMA. Ensuite, des personnels qui n'étaient pas combattants, qui n'étaient pas, disons, qui n'étaient pas militaires, qui n'appartenaient pas au FAMA, mais qui souhaiteraient certainement faire carrière dans la Ces conditionnalités vont être discutées. Mais il faudrait que cela soit accompagné de conditionnalités pour que nous ne soyons pas en train de répéter perpétuellement l'histoire en termes de désertion, en termes de crise, en termes vraiment d'attaque des femmes et des citoyens sur le terrain. Donc il faudrait aussi que de l'autre côté, les mouvements donnent des assurances. Il faut quand même que les gens n'aient pas les mains tachées de sang, les crimes de sang.
Alors qu'une campagne de vaccination a débuté dans la commune de Tessit, des éleveurs refusent de faire vacciner leurs animaux. Certains jugent cette période de chaleur inopportune pour une telle campagne et pour d'autres, ces vaccinations, au lieu de prévenir, favorisent plutôt certaines maladies animales. Des arguments que les services vétérinaires réfutent, ils appellent les éleveurs à participer à cette vaccination pour la santé des animaux et celle de la population. Reportage de notre correspondant à Tessit, Mohamed Lamine Sissé.
Zone d'élevage par excellence, la commune de Tessit organise régulièrement des campagnes de vaccination du cheptel. Mais de plus en plus, des éleveurs sont réticents à ces opérations qui, selon eux, provoquent la mort de leurs animaux. Almo Ag Abhao est un éleveur. Il explique les raisons de cette réticence de certains éleveurs à faire vacciner leur bétail.
Pour que les gens ne veulent pas la vaccination des animaux, parce que les animaux sont faibles, elles ont faim. Bon, quand l'animal a faim aussi, elle ne peut pas être vaccinée. C'est pour cela que beaucoup d'éleveurs ne veulent même pas que les animaux soient vaccinés dans un moment de la sécheresse. Mais il y a des autres aussi qui disent que les vaccins qu'ils font par rapport aux maladies, ce sont eux-mêmes qui provoquent même encore la maladie pour les animaux.
Les responsables du service vétérinaire du cercle d'Ansongo balaient d'un revers de la main ces arguments avancés par les éleveurs. Pour Asagaïdou Ameiga, chef secteur du service vétérinaire dans Songo, ce refus de vacciner les animaux est naturel chez certains éleveurs.
Par rapport au langage des éleveurs, je ne suis pas d'accord, parce que c'est quelque chose de naturel chez les éleveurs. Ils sont réticents à la vaccination, mais ils n'ont aucune preuve. Mais je trouve que si les animaux ne sont pas bien traités, c'est-à-dire qu'avant la vaccination, il faut traiter les animaux. Il y a ce qu'on appelle un déparasitage. Il faut déparasiter annuellement les animaux, et c'est ce que les éleveurs ne font pas.
Les responsables du service vétérinaire invitent les éleveurs à faire vacciner leurs troupeaux afin de les protéger contre les maladies.
Aujourd'hui, l'animal, c'est une richesse. Si l'éleveur refuse de vacciner, je crois qu'il refuse son bien-être. Sans les animaux, les éleveurs, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Alors qu'il faut prendre des mesures pour pouvoir déparasiter les animaux, ensuite les vacciner régulièrement. Une fois que le troupeau est contaminé, ce troupeau peut contaminer tous les troupeaux de la zone. Et ça, c'est dangereux.
Dans la commune de Tessit, 90% de la population vivent des produits de l'élevage. Ce refus de certains éleveurs de vacciner leurs animaux peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population. D'où l'urgence de mener des campagnes de sensibilisation afin de convaincre les éleveurs à adhérer les campagnes de vaccination du cheptel. De Tessit, Mohamed Lamine Sissé pour Studio Tamani.
Une prolongation du mandat du comité de normalisation chargé de gérer le football malien se dessine. À 3 jours de la fin du mandat du CONOR, des doutes planent sur l'organisation de l'Assemblée générale élective d'un nouveau président à la tête de la Fédération malienne de football. Cette élection est censée se tenir au plus tard le 30 avril. C'est dans ce contexte que le CONOR a organisé hier une conférence de presse au siège de la FEMAFOOT. Madame Daou Fatmata Guindo, présidente du CONOR, au micro de Lindi Moussa Diallo.
Cette année, on a pu sauver parce que les textes nous disaient « Si vous n'avez pas de champion, référez-vous aux champions de l'année précédente. » Nous ne serons pas dans cette situation en 2019. Ceux qui vont venir, ce n'est pas des amateurs. Il y a la continuité dans tout. Tant qu'on peut sauver, sauvons la chose. Et ce sont ces éléments que nous sommes aujourd'hui en train de traiter. Et je sais qu'on va échanger avec des acteurs directs à la matière pour pouvoir valider quelque chose. Maintenant, par rapport à l'élection, la fédération doit être gérée par les acteurs du football. Pas vraiment quelqu'un comme moi. Nous voulons aller vite et bien pour mettre en place le bureau, aller vite et bien pour que le bureau qui sera mis en place puisse survivre durant tout son mandat. En voulant normaliser, nous, on ne peut pas être là à poser des actes illégitimes parce qu'après le 30, c'est des actes illégitimes.
Aux dernières nouvelles, la FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation de la Fédération malienne de football CONOR jusqu'au 31 octobre 2018. L'information a été donnée par son émissaire Véron Moussengo Omba lors d'un point de presse cet après-midi au siège de la FEMAFOOT.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Direction l'intérieur du pays à présent, une rencontre initiée pour aider les femmes et les filles déplacées du Nord s'est tenue hier à Kuchala. Il s'agissait de former ces dernières sur la saponification, la transformation agroalimentaire et l'embauche bovine dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. C'est une initiative de l'ONG Carrefour de développement. Une trentaine de femmes transformatrices de Bougouni apprennent les méthodes de transformation du maïs en jus naturel et celles d'autres produits alimentaires. La session a été organisée par le bureau régional de l'interprofession filière maïs qui entend contribuer à la valorisation de cette céréale dans le cercle. Comme tous les vendredis soirs, vous pourrez suivre dans un instant le forum de la presse avec Mamadou Touré. Bonsoir.
C'est plutôt Aliou Sidibé sur le format. Bonsoir.
Alors,
les trois sujets sur lesquels on va se focaliser cet après-midi sont la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'annonce par le gouvernement de 10 000 enseignants fictifs. Bien sûr, on va sortir avec la visite du président de la République à Ségou.
Bon débat à Aliou Sidibé qui se trouve donc au studio 2 de Tamani. Restez à l'écoute dans un instant le magazine.